Radio Kapi.
Oh Kapi.
Josim Seupondé pour le journal.
Interpellation d'une trentaine de personnes lundi dans la commune de la Kenya à Lubumbashi. Le RATSOP dénonce une arrestation arbitraire de ses militants. La police, elle, affirme qu'il s'agit des vendeurs de chanvre. Oninga, dans le Walikale, enclavé et affecté par le choléra, le gouvernement et l'OMS viennent de ravitailler l'entité en intrants médicaux grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Bonaventure Moutange, gouverneur de Lions Club, est notre invité ce matin. Son organisation a financé la construction d'un nouvel immeuble au centre de rééducation de Bandalung. Bonjour à tous. Le rassemblement de l'opposition dans le Grand Katanga dénonce l'arrestation arbitraire lundi par la police de plusieurs personnes dans la commune de la Kenya Lubumbashi. Selon le porte-parole de cette plateforme de l'opposition, les victimes sont accusées d'appartenir au rassemblement. Samville Mukendi précise que la commune de la Kenya est ciblée par la police à cause de la journée ville morte qui était observée le 15 novembre dernier par la population. Le rassemblement exige la libération sans condition de ces personnes. Samville Mukendi le dit au micro de Paul Mounaga.
C'est avec beaucoup d'amertume que nous avons constaté ces vagues d'arrestations de la population de la Kenya juste après la parade qui a été délocalisée au niveau de la basilique Sainte-Marie par la police, présidée par l'inspecteur Paulin Kiungu. Juste après la parade, il y a eu arrestation de tous les jeunes qui se retrouvaient sur la rue, de toutes les femmes, de tous les enfants, même des mineurs. C'est ce que nous déplorons. Le chiffre approximatif, c'est à peu près 150 à 200 personnes qui ont été arrêtées. Même les motocyclistes qui étaient sur leur moto, on les a arrêtés. Nous nous avons posé la question: pourquoi procéder à des arrestations arbitraires? Pour eux, ils considèrent la population de la Kenya comme une population droguée. Ça, c'est le prétexte. Mais nous savons que c'est à la Kenya que le 15 dernier, il y a eu des manifestations, il y a eu ville morte, et du côté du pouvoir, ils ne veulent pas entendre de ça. Nous saisissons cette opportunité pour tenir informée même la communauté internationale, même les autorités gouvernementales et locales ici. Elles doivent prendre des dispositions pour mettre un terme. Nous rassemblons, nous exigeons la libération de tous ceux-là qui ont été arrêtés arbitrairement.
Le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga dit reconnaître qu'une trentaine de personnes ont été interpellées. Selon lui, il s'agit des vendeurs de chanvre et d'autres personnes qui sont suspectées de semer la panique et la désolation dans la commune de la Kenya. L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité au cours de la plénière d'hier mardi le rapport de la commission PAJ sur l'examen de la proposition de loi organique portant création du Conseil national de suivi de l'accord. Parmi les grandes orientations retenues par la commission, le CNSA reste une institution d'appui à la démocratie ayant une autonomie d'action conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a accordé 48 heures pour les amendements et un dernier étoilettage. Cette proposition de loi sera donc voté dans 48 heures par les députés avant d'être envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Le rapporteur de la commission PAJ, le député Bokona Bonjali, donne ici les grandes lignes de cette proposition de loi au micro de Michel Kifindangoé.
Partant du débat général, votre commission a confirmé la pertinence de certaines options majeures contenues dans la proposition de loi initiale. Il s'agit des options suivantes, notamment la nature du CNSA comme institution d'appui à la démocratie, l'autonomie d'action du CNSA pour les conformer aux autres institutions d'appui à la démocratie, désignation des membres par les parties prenantes de l'accord et un observateur délégué par la Conférence épiscopale nationale du Congo, répartition des entre les composants, dans le but d'améliorer les textes soumis à son examen. Votre commission a levé de nouvelles options. Il s'agit notamment 1. Renvoi à l'exposé des motifs du fondement constitutionnel de la loi. Adaptation de l'organisation et du fonctionnement des CNSA au modèle d'autres institutions d'appui à la démocratie, tout en étant compte du caractère hautement politique, spécial et temporaire de cette institution.
Nous poursuivons notre journal avec cette demande des notables du territoire de Mweka dans la province du Kasaï, habitant la ville de Kinshasa. Ils sollicitent la nomination des animateurs non originaires de ce territoire dans des postes de l'administration publique. Dans un mémorandum adressé au ministre de l'Intérieur, Emmanuel Chadari, élu déposé lundi, ces notables justifient leur demande par la recherche de la paix qui serait perturbée par les acteurs politiques du terroir. Écoutez leur porte-parole, François Minga, qui s'exprimait au cours d'un point de presse. Il est au micro de Paul Maté.
Les animateurs des institutions de la République au niveau de notre territoire, dans les secteurs de la santé, de l'éducation, ainsi que dans les secteurs de la sécurité, sont pris en otage par un acteur politique fils du terroir. Cet acteur politique s'est permis de nommer ses frères du clan biologique à la tête de l'administration du territoire et il utilise ces mêmes personnes pour régler ses comptes avec d'autres fils du territoire. Et c'est là, au vu de la population qui est en train de subir des conséquences imaginables. Nous craignons vraiment que l'affaire Kamwena Sapu revienne encore à Mweka, mais sous une autre forme. C'est ainsi que ces mémos qui a été déposé, c'est une sonnette d'alarme afin que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire prennent des mesures urgentes et idoines afin de pouvoir changer d'office les animateurs de ce secteur par les non-originaires dans notre territoire.
Rendons-nous à présent au Nord Kivu. La population d'Oninga, en groupement Oussala, territoire de Walikale, estimé à 11 000 habitants, vit totalement enclavée. Située en pleine forêt au nord-ouest du territoire, cette localité est complètement isolée du fait de l'absence de toute infrastructure routière. Conséquence, la population vit dans une extrême pauvreté. En plus de cela, depuis le mois d'octobre, la localité fait face au choléra qui a déjà fait plusieurs morts. Sifa Maguru.
Pour sortir d'Oninga et atteindre les chefs-lieux ou des agglomérations telles que Mangorejipa et Butembo et autres pour des échanges commerciaux, les habitants disent qu'il faut faire au moins 2 semaines de marche. Ainsi, sans aucune débouchée économique, les populations vivent dans la misère. Témoignage de Maombi Mubandi, secrétaire du groupement. Nous vivons très difficilement. Dans ce milieu, nous cultivons le riz, le maïs, le manioc, les haricots et l'arachide et nous n'avons pas des marchés. Nous devons acheminer tous ces produits en brousse ou vers les carrières minières où il y a des creuseurs pour chercher un petit bénéfice et se procurer même du savon. À cause de cet enclavement, fin octobre, il a fallu l'appui des hélicoptères de la MONUSCO pour que le gouvernement et l'OMS puissent transporter des intrants médicaux jusqu'à Oninga afin de faire face au choléra. Entre-temps, une vingtaine de personnes avaient déjà été tuées par la maladie. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Santé encore, plus de 500 cas suspects de choléra, dont 35 décès ont été enregistrés dans la région du Kassai entre le 6 et le 12 novembre. Le programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques l'a révélé dans un rapport hebdomadaire publié lundi. Depuis Kananga, Karine Damoussou nous en parle.
Près de 2000 cas suspects de choléra ont été recensés dans 71 zones de santé à travers le pays, indique le rapport du Programme national d'élimination de cette maladie. 35 décès sont comptés dans la région du Kasaï parmi les 50 enregistrés dans 16 des 26 provinces de la RDC. Cette région, considérée comme l'un des foyers les plus touchés par le choléra, renferme en elle-même environ 33% de cas et 81% de décès, note ce document. Par rapport aux rumeurs sur les cas suspects signalés à Luisa, le coordonnateur du Programme national de lutte contre le choléra affirme que ses équipes sont en train de se rendre à Luisa pour investiguer. D'ici 2 jours, indique-t-il, sa structure donnera des détails sur cette situation. Pour éviter la propagation de cette maladie, le professeur Didier Bompangé a lancé un appel pour mobiliser les moyens en vue de mettre en œuvre le 2e plan global de riposte contre le choléra. Selon lui, ce plan est évalué à 8 millions de dollars. L'épidémie de choléra a été déclarée en RDC en juillet dernier. Et depuis le mois de janvier, plus de 45 000 cas suspects et 918 décès ont été dénombrés dans le pays. Kananga, Karine Damso, Radio Kapi.
Direction Kisangani, une lueur d'espoir se dessine concernant le retour partiel de l'électricité dans la ville après plus de 10 jours d'interruption suite à l'arrêt de la centrale hydroélectrique de la Tchopo le 9 novembre dernier. La Société nationale d'électricité procède depuis lundi soir à des essais de rétablissement du courant électrique sur tout le réseau à travers la ville. André Kitenge pour les détails.
Selon le directeur provincial de la SNEL, l'heure est à présent au dernier réglage pour alimenter une partie de la ville. Déjà quelques secteurs stratégiques sont déjà alimentés en électricité ce mardi à partir d'un seul groupe mis en marche sur les 3 que compte la centrale hydroélectrique de la Tchopo. La même source affirme que l'unique groupe numéro 2 est très limité pour produire suffisamment d'électricité compte tenu de la demande. Il faudra donc attendre, affirme le directeur de la SNEL, la mise en marche du deuxième groupe sur lequel l'incident est survenu le 9 novembre et du troisième dont certaines pièces sont en reconditionnement à l'atelier central de Panda de la Gécamine à Likasi dans le Haut-Katanga. En attendant, les travaux de la remise en marche du groupe numéro 3 se poursuivent à la centrale hydroélectrique de la Tchopo par une équipe d'experts de la SNEL. André Kitenge, Kisangani, Radio Okapi.
En économie, présentation de deux rapports par le groupe de la Banque mondiale hier mardi à Kinshasa. Le premier rapport porte sur la gestion des dépenses publiques, accroître l'efficacité et l'efficience du secteur public pour promouvoir la croissance et les développements. Le deuxième a trait à l'utilisation de la rente des industries extractives. Jean-Pierre Elali Koko.
Ces deux rapports partent du constat selon lequel les recettes publiques et domestiques sont insuffisantes pour promouvoir la croissance et le développement de la RDC, les financements du secteur public dépendant en grande partie de l'extérieur. C'est le cas de l'eau et de l'électricité, Laurent Debrou, représentant résident de la Banque mondiale en RDC.
Dans un pays qui dispose d'autant de ressources hydrauliques et énergétiques, la situation sous-optimale des secteurs de l'eau et de l'électricité résulte dans de l'insuffisance des allocations en ressources financières. Environ 84% du financement est extérieur. 14% est de l'autofinancement par la régie des eaux et l'État, lui, n'a contribué qu'à hauteur de 2% du montant total.
Ces rapports révèlent que la RDC demeure l'un des pays où le taux d'accès à l'électricité est le plus faible du monde. Dans le deuxième rapport, il est beaucoup plus question des industries extractives dont la rente devrait contribuer au bien-être de la population congolaise. La RDC devrait s'inspirer de l'exemple de la Corée du Sud. Shadi Bou Habib, économiste en chef pour la RDC à la Banque mondiale.
Le président coréen, en fait, dit 52% de mon budget est financé par les États-Unis. Comment est-ce que moi je peux penser à des politiques de développement de long terme, d'une partie axée sur la réforme fiscale, notre partie axée sur la réforme administrative et une troisième partie sur la transformation structurelle de l'économie. Et ces politiques ont mené à la Corée du Sud que nous voyons aujourd'hui.
Nous sommes dans la capitale Kinshasa où l'office des voiries et drainages OVD est actuellement à pied d'œuvre sur plusieurs chantiers, notamment celui de la construction d'une nouvelle passerelle pour remplacer le petit pont jeté sur la rivière Gambari qui sépare les communes de Kinshasa et de Kalamu. Ces vieux ponts rongés par la rouille avaient pratiquement cédé, rendant le passage assez difficile pour les usagers. Babel Mpongo Massimango, vous étiez sur place.
Pour le moment, la traversée se fait sur des planches que des jeunes gens ont posées à moi et non sans francs congolais. À défaut de cette option, deux autres s'offrent à vous. Je vois l'équilibriste sur le WC sur la structure métallique à moitié démontée, rongée par la rouille, ou plonger carrément ses pieds dans cette eau qui sert de décharge et de fosse septique pour les riverains. Mais le terrain en pente pour déboucher sur l'avenue Founant, le marché Gambari, ne facilite pas le passage. Certains sont obligés de marcher à quatre pattes pour ne pas glisser.
On se débrouille, je confie souvent mes colis à un des jeunes et je les récupère de l'autre côté.
J'ai voulu traverser, mais c'est dangereux. J'ai fait un contour par Bokassa.
Je suis contente car ces travaux vont aider les mamans à traverser facilement la rivière.
Depuis près de deux semaines, l'OVD est sur place pour construire une nouvelle passerelle de 22 mètres sur 3, plus haute que l'actuelle pont. Les travaux financés par le FONER vont durer 45 jours sauf imprévu. Pour le moment, l'OVD découpe encore l'ancien pont. Entre-temps, les syndicats du marché Gambari, soutenus par leurs bourgmestres, sont entamés grâce aux collectes la construction d'une passerelle provisoire faite de châssis de camions soudés et de tôles que l'OVD a démontées sur l'ancien pont. C'est pour permettre la poursuite quasi normale des activités du marché en attendant la fin des travaux exécutés par l'OVD. Pour l'heure, l'office gère quatre chantiers de construction des passerelles dans la ville.
En bref, la sanction prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, contre le journaliste Daniel Safou, le frappant d'embargo dans les médias pour une durée de 60 jours, a été assouplie. La durée est désormais de 45 jours. La décision a été prise hier mardi au cours d'une plénière de cet organe de régulation des médias. La plénière s'est donc prononcée suite à la requête introduite par l'avocat du journaliste. Daniel Safou est accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit du questeur de l'Assemblée nationale.
Actualité, Afrique monde.
D'abord au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a remis une lettre de démission au Parlement, a annoncé Jacob Mudenda, président de l'Assemblée nationale, hier mardi 21 novembre. Le chef de l'État zimbabwéen qui est âgé de 93 ans était en résidence surveillée depuis l'intervention de l'armée mercredi dernier, mais refusait de céder le pouvoir qu'il exerçait depuis l'indépendance en 1980. Au Sénégal, le député maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis mars dernier, soupçonné de détournement des deniers publics, est convoqué ce mercredi 22 novembre devant la commission de l'Assemblée nationale sénégalaise qui doit statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Une convocation envoyée sous forme de lettre à la prison qui n'a aucun sens, estiment les défenseurs de Khalifa Sall.